Les hiérarchies spirituelles et leur reflet dans le monde physique. Première conférence, 12 avril 1909. Ce cycle de conférences va nous introduire dans des domaines élevés de la vie spirituelle. Il nous conduira non seulement de la terre où nous sommes, dans l'espace physique, mais aussi dans les mondes spirituels dont cet espace physique tire son origine. Mais des conférences de ce genre ont surtout pour but de nous montrer qu'au fond, tout savoir, toute science, a pour objet de résoudre la grande énigme, la plus grande de toutes, l'énigme de l'être humain. En effet, pour comprendre ce qu'est l'homme, il faut remonter très loin. Ceux qui veulent suivre ces conférences devront donc posséder, à certains égards, certaines notions spirituelles fondamentales. Et il faudra en outre, pour les suivre, un grand élan de l'esprit, quoique nous fassions tous nos efforts pour rendre le sujet traité aussi compréhensible que possible. Parler de ce qu'on appelle les hiérarchies spirituelles, cela veut dire élever le regard de l'âme vers des entités dont l'existence se déroule au-dessus de celle de notre humanité terrestre. Nos yeux physiques ne peuvent atteindre que les êtres des quatre règnes naturels. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Au-delà du règne humain commence un monde d'êtres invisibles. Et dans la mesure où il acquiert la connaissance du suprasensible, l'homme peut faire un pas vers les entités qui, dans le monde invisible, sont le prolongement de ces quatre règnes. La connaissance et la recherche qui conduisent dans ces domaines n'ont pas pénétré pour la première fois à notre époque dans l'évolution humaine. Il existe ce que nous pouvons appeler une sagesse originelle. L'homme peut l'approfondir. Il peut apprendre à connaître le contenu de cette sagesse. Car les idées, les concepts qu'il peut acquérir à ce sujet, les imaginations, les inspirations et les intuitions de la clairvoyance auxquelles il peut parvenir, tout cela n'est que revécu pour ainsi dire par l'homme. Tout cela a déjà été conçu, connu par des entités qui lui sont supérieures. Qu'il nous soit permis de prendre une comparaison souvent employée. Songeons qu'un horloger a d'abord l'idée, la conception de la montre qu'il va fabriquer. C'est d'après cette idée, qui a dû nécessairement en précéder la fabrication, que la montre est réalisée. Mais, par la suite, quelqu'un pourra la démonter, l'examiner, et retrouver ainsi la pensée dont elle est née, repenser pour ainsi dire l'idée de l'horloger. C'est de cette façon seulement que l'homme peut se comporter, à son degré actuel de développement, à l'égard de la sagesse primordiale et des entités spirituelles qui lui sont supérieures. Ces entités ont eu d'abord les imaginations, les inspirations, les intuitions, les idées et les pensées selon lesquelles est constitué l'univers qui nous entoure aujourd'hui. Et l'homme retrouve ses idées, ses pensées dans cet univers. Lorsqu'il s'élève à la vision clairvoyante, il retrouve aussi les imaginations, inspirations et intuitions qui lui permettent de pénétrer dans le monde des entités spirituelles. Nous pouvons donc dire que la sagesse dont nous allons parler préexistait à notre univers. C'est le plan de cet univers. Jusqu'où dès lors faut-il remonter pour retrouver cette sagesse originelle tout en restant dans les limites de la réalité? S'agit-il d'une époque historique quelconque pendant laquelle enseignait tel ou tel grand instructeur? Certes, nous pouvons beaucoup apprendre en nous replongeant dans certaines époques historiques et en devenant ainsi les élèves des grands maîtres. Mais pour atteindre la sagesse primordiale dans sa forme la plus haute, la plus vraie, il faut remonter jusqu'à l'époque où il n'y avait pas encore de terre visible, pas d'univers matériel, car le monde est issu de cette sagesse elle-même. Et cependant, cette sagesse, selon laquelle les êtres spirituels ont formé notre univers, est devenue par la suite le partage de l'homme. Celui-ci a pu, dans sa propre pensée, voir, percevoir les pensées d'après lesquelles les dieux ont construit le monde. Puis, cette sagesse originelle, cette sagesse des créateurs de l'univers, a revêtu successivement plusieurs formes. Elle s'est enfin révélée. Comme beaucoup d'entre vous le savent, après la grande ère atlantéenne, à ceux qui guidèrent la première des époques de civilisation post-atlantéenne, aux rishis, les grands instructeurs de l'Inde antique. C'est sous une forme dont l'homme actuel ne peut que difficilement se faire une idée, que cette sagesse originelle est parvenue au saint rishi. Les facultés humaines de la pensée, du sentiment, se sont profondément modifiées depuis le temps où les grands maîtres de l'Inde instruisaient l'humanité. Et si de nos jours on ne faisait que répéter ce que disaient les rishis, la plupart des êtres humains n'y verraient plus que des mots, encore des mots. C'est qu'il faut une autre réceptivité que celle de l'homme actuel pour vraiment comprendre ce qui, de cette sagesse, fut alors communiqué à l'humanité post-atlantéenne. Dans les livres qui nous sont parvenus, même dans les meilleurs, les plus beaux, il n'y a plus qu'un faible écho de la sagesse originelle. Ce n'est à certains égards qu'une connaissance voilée, atténuée. Et si grand, si sublime que soient les Védas, si beau que soient les hymnes de Zoroastre, quel que soit l'éclat de l'antique sagesse égyptienne, tout cela, qu'on ne peut assez admirer, ne nous apporte pourtant plus qu'un trouble reflet du grand enseignement de Zoroastre et d'Hermès, et bien plus encore des merveilleuses connaissances jadis répandues par les saints rishis. Cette sagesse sublime a pourtant été conservée pour les hommes. Elle a toujours été connue dans certains cercles, forts étroits certes, et qui ont été les gardiens de ce qu'on appelle les mystères sacrés. C'est dans les centres de mystères de l'Inde, de la Perse, de l'Égypte, de la Chaldée, dans les mystères chrétiens, qu'a été conservée jusqu'à nos jours la sagesse primordiale. Jusqu'à tout récemment, il n'était possible de la trouver, vivante et non sous une forme de livre, qu'au sein de ces cercles fermés. Pour des raisons que cette série de conférences éclairera, c'est à notre époque que doit se répandre, de façon plus étendue dans l'humanité, ce qui est resté vivant, et s'est ainsi conservée dans ses cercles étroits. Car elle n'a jamais tari, cette sagesse des saints rishis. Au début de notre ère, elle a passé pour ainsi dire par une fontaine de jouvence. Après avoir inspiré les rishis, Zoroastre et ses disciples, les mages de Chaldée et d'Égypte, après avoir imprégné l'enseignement de Moïse, elle a jailli de nouveau, comme une impulsion entièrement nouvelle, lors de l'apparition du Christ sur la terre. Mais elle est devenue alors si profonde, si intérieure, qu'elle ne peut s'infiltrer dans l'humanité que par étapes. Depuis que la révélation chrétienne se répand dans le monde, nous voyons la sagesse originelle pénétrer dans la vie extérieure de l'humanité, lentement, progressivement, sous une forme encore élémentaire. Les messages existent. Ils sont dans les évangiles et dans les autres écritures chrétiennes. Ils contiennent la sagesse des saints rishis, mais sous une forme renouvelée et comme rajeunie au sortir d'une fontaine de jouvence. Mais comment ces messages auraient-ils pu être compris dès le début d'une ère que le christianisme devait précisément purifier? On n'a encore compris qu'une très petite partie des évangiles. C'est pas à pas qu'il se fraye un chemin vers une compréhension plus grande, à certains égards, vers plus d'obscurité. De nos jours, les évangiles sont peut-être les livres les plus scellés qui soient. On ne pourra de nouveau les comprendre à l'avenir qu'en puisant de nouvelles forces dans la sagesse originelle. Les trésors de la révélation chrétienne, qui ne sont autres que ceux de la sagesse orientale, mais nés de nouveau, doués d'une force nouvelle, ont été conservés eux aussi dans des cercles fermés dont les continuateurs furent différentes associations mystiques, telles que la confrérie du Saint Graal par exemple, et finalement celle des Rose-Croix. Là, seuls avaient accès à ces trésors de vérité ceux qui, par de dures épreuves, s'étaient préparés à les recevoir. Ainsi, pendant de nombreux siècles, depuis le début de l'ère chrétienne, toute cette sagesse d'Orient et d'Occident est restée presque inaccessible à la grande masse de l'humanité. De temps en temps seulement, un peu de cette sagesse filtrait dans le monde extérieur. La plus grande partie restait le secret des nouveaux mystères. Mais alors est venue l'époque où il fut permis de parler de cette sagesse primordiale dans un langage compréhensible, accessible à un grand nombre d'êtres humains. C'est à peu près depuis le dernier tiers du XIXe siècle qu'on peut y faire allusion sous une forme plus ou moins voilée. Grâce à certains événements qui se sont produits dans les mondes spirituels, la possibilité a pour ainsi dire été donnée aux gardiens des mystères de laisser filtrer au dehors quelque chose de la sagesse originelle. Vous connaissez tous l'histoire du mouvement théosophique. Vous savez que la glace a tout d'abord été rompue en quelque sorte par la révélation de certaines vérités, d'une façon que je n'ai pas besoin de décrire ici. Dans ce qu'on appelle les strophes de Dzian. Ces strophes de la doctrine secrète contiennent en fait une connaissance des plus profondes. Une grande partie de ce qui, de l'enseignement des saints rishis, a passé dans les doctrines orientales, puis en Occident, après avoir été rajeuni par le christianisme. Il ne s'y agit pas seulement de ce qui, de l'antique sagesse, a été conservé en Orient, mais aussi de ce qui, venant des écoles occultes d'Occident, a rayonné pendant les premiers siècles de notre ère, à travers le Moyen-Âge. Et toute une partie du contenu de ces strophes ne sera comprise que peu à peu dans toute sa profondeur. Car, qu'il nous soit permis de le dire ici, la sagesse qui s'y trouve est telle qu'elle serait encore incompréhensible à beaucoup de théosophes. Exotériquement, on ne saurait en deviner les profondeurs cachées. Il faut bien dire, en effet, qu'aucune possibilité n'existe aujourd'hui de découvrir, au moyen des facultés ordinaires, exotériques, les fondements de ce monde extraordinairement important. La glace étant ainsi brisée, le temps est venu où l'occultisme occidental, lequel n'est d'ailleurs pas autre chose que l'occultisme oriental, tel qu'il s'est perpétué, compte tenu des changements survenus dans la vie spirituelle et physique, peut parler à partir de ses propres sources, des sources de l'occultisme vivant, tel qu'il a été fidèlement conservé dans les mystères de la Rose-Croix. Il n'y a pas de sagesse orientale qui n'ait pénétré dans l'occultisme occidental. Et on trouve dans l'enseignement des Rose-Croix tout ce que les grands sages de l'Orient ont su et transmis. Rien, absolument rien de ce qu'on peut savoir de la sagesse orientale ne fait défaut à celle de l'Occident. La seule différence, c'est que la sagesse de l'Occident doit rassembler toute la doctrine, toutes les recherches de l'Orient, et sans en rien laisser perdre, doit projeter sur elle la lumière qui a été allumée dans l'humanité par l'impulsion du Christ. Que personne ne dise donc, en parlant de l'occultisme occidental, de ce qui provient à certains égards des rishis cachés de l'Occident, qu'évidemment les yeux ne peuvent pas voir, que personne ne dise donc qu'il manque à cet occultisme le moindre iota de l'occultisme oriental. Rien, absolument rien ne lui manque. Il lui faut simplement tout faire renaître par l'impulsion du Christ. Toutes les grandes connaissances concernant les mondes supra-humains et l'existence suprasensible, telles qu'elles sont sorties pour la première fois de la bouche des saints rishis, doivent se retrouver aujourd'hui dans ce qu'on peut dire des hiérarchies et de leurs projections sur le plan physique. De même que la géométrie d'Euclide n'a nullement changé, bien qu'on l'enseigne et qu'on l'apprenne aujourd'hui au moyen d'autres facultés, la sagesse des saints rishis n'a pas changé du fait que nous l'enseignons et l'apprenons avec des facultés qui ont été éveillées en nous par l'impulsion du Christ. Nous pourrions donc qualifier de sagesse orientale une grande partie de ce que nous avons à dire des mondes spirituels. Mais il s'agit d'éviter tout malentendu à ce sujet, et le malentendu n'est ici que trop facile. Ceux qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre pourraient par exemple nous dire « Hier encore, vous parliez des grandes, des sublimes vérités enseignées par le Bouddha. Vous disiez que celui-ci a révélé de grandes vérités sur la souffrance au cours de l'existence, en montrant que naître c'est souffrir, être malade c'est souffrir, mourir c'est souffrir, être séparé de ceux qu'on aime c'est souffrir, être uni à ceux qu'on n'aime pas c'est souffrir, ne pas recevoir ce qu'on désire c'est souffrir, et vous ajoutiez, regardez ceux qui, à partir de l'ère chrétienne, ont vraiment saisi l'impulsion du Christ. » Du fait de la compréhension, de la prise de conscience de cette impulsion, les vérités enseignées par le Bouddha ne sont plus aussi valables, car l'impulsion du Christ a créé une sorte de remède aux souffrances de l'existence. Le Bouddha a dit que naître, c'est une souffrance. Mais si nous partageons avec le Christ la vie dans laquelle nous entrons par la naissance, la souffrance partagée avec lui est effacée. De même, par la force salvatrice du Christ, la maladie n'est plus souffrance, la mort non plus, ni le reste. On pourrait nous rétorquer que dans les évangiles, on retrouve les mêmes phrases que dans les textes bouddhiques. Là aussi, il est dit que la maladie est souffrance, que la vie est souffrance, etc. Si le contenu de tous ces documents religieux est le même, il n'y a donc aucun progrès d'une religion à l'autre. Toutes les religions disent la même chose. Or, vous avez parlé d'un progrès. Vous avez expliqué que du fait du christianisme, les anciens enseignements bouddhiques ne sont plus vrais. Parler ainsi serait se méprendre grandement. Tout cela a bien été dit, sauf la dernière phrase. Or, il est important de comprendre de façon très précise ce qui touche à ce domaine subtil. Le fanatique ne pourra jamais y arriver. Comprendre de façon exacte suppose qu'on soit objectif. Celui qui s'inspire des sources de la sagesse rosicrucienne ne dira jamais qu'elle est en contradiction avec le contenu des écrits du Bouddha, ou qu'il y a quelque chose de faux dans ceux-ci. Tous ceux qui partent de ces sources partagent les convictions du Bouddha et de la sagesse orientale. Ce que son illumination a révélé au Bouddha concernant les souffrances de la vie est absolument vrai, et jusque dans les moindres détails. Il ne s'agit pas d'en supprimer quoi que ce soit, même pas un iota. Tout reste vrai. Et c'est précisément parce qu'il est vrai que la naissance est souffrance, que la maladie est souffrance, etc., comme l'a dit le Bouddha, que l'impulsion du Christ est pour nous un grandiose et puissant remède. C'est elle qui allège la souffrance, car il est vrai que celle-ci existe tant qu'une grande impulsion n'en libère pas le monde. Pourquoi le Christ a-t-il agi? Parce que le Bouddha a dit vrai. L'humanité a dû descendre des hauteurs spirituelles où régnait dans sa pureté la sagesse originelle. Elle devait être conduite vers l'indépendance au sein de l'existence physique. Et par cela même, la vie est devenue souffrance et la maladie est apparue. Aussi a-t-il fallu que s'incorpore à l'évolution le grand remède opposé à ces maux inéluctables. Affirmer que ce qui a été dit de cette réalité est vrai, mais que d'autre part le moyen nous est donné de faire évoluer les faits d'une façon saine, est-ce donc nier la réalité ? Dans les hauteurs de l'existence, où nous devons chercher les sphères des hiérarchies spirituelles, il n'est pas dit que le bouddhisme s'oppose au christianisme, ou que le christianisme au bouddhisme. Là, le Christ tend la main au Bouddha, et le Bouddha au Christ. Ne pas vouloir admettre le développement, le progrès de l'humanité, c'est aussi méconnaître le plus grand effet spirituel qui soit intervenu dans l'évolution de la Terre, la venue du Christ. Il n'y a donc rien à rejeter de la sagesse orientale qui, pendant de si longues périodes, a ainsi transmis aux hommes la sagesse des saints rishis, la sagesse primordiale. Mais, au cours de toutes ces périodes, la compréhension de cet enseignement est devenue de plus en plus difficile pour la grande masse de ceux qui n'étaient plus en état de remonter à la source des mystères sacrés. C'est que dans les temps pré-atlantéens, ceux qui ont précédé le déluge, lorsque la plupart des hommes, encore doués d'une clairvoyance brumeuse, plongeaient le regard dans les espaces célestes, ils voyaient les choses tout autrement qu'aux époques post-atlantéennes où l'ancienne clairvoyance ayant disparu pour la grande masse d'entre eux, ils ne percevaient plus avec les yeux physiques que l'étendue physique du ciel. Avant la catastrophe atlantéenne, il eût été absurde de parler des corps célestes dans l'espace comme on le fait aujourd'hui. Ce que l'œil clairvoyant percevait au dehors, c'était des mondes spirituels. Cela n'aurait eu aucun sens à cette époque de parler de Mercure, de Neptune ou de Saturne, comme le fait notre astronomie. Celle-ci ne peut qu'enregistrer ce que l'œil physique voit dans les étendues du ciel. Il n'en était pas ainsi au temps de l'Atlantide pour l'humanité alors clairvoyante. En levant les yeux, on ne voyait pas des astres lumineux physiquement limités dans l'espace. Ce qu'on voit aujourd'hui à travers un télescope n'est plus que l'aspect extérieur de l'élément spirituel qu'on contemplait jadis. Là où se trouve Jupiter, par exemple, on voit aujourd'hui un globe physique entouré de ses lunes. Que voyait autrefois l'Atlantéen clairvoyant? Ce que perçoit notre œil physique, il l'aurait vu d'une façon aussi vague que nous voyons actuellement des lumières à travers un épais brouillard d'automne. Des lueurs entourées d'une sorte de halo coloré. L'œil de l'Atlantéen n'aurait pas pu voir l'astre physique Jupiter, mais aurait perçu ce qui aujourd'hui encore est lié à Jupiter, bien que les hommes ne puissent plus le voir. L'aura de Jupiter. C'est-à-dire une colonie d'entités spirituelles dont cet astre n'est que l'expression, la manifestation. Son regard spirituel errait dans l'espace universel où il ne voyait que ce qui est de nature suprasensible. Avant la catastrophe atlantéenne, cela n'aurait eu aucun sens de parler d'astre physique, l'œil physique n'étant pas encore ouvert comme il l'est aujourd'hui. Dans l'espace, c'était des entités spirituelles, les hiérarchies, que l'on voyait. Voici comment l'évolution s'est faite. Supposons que nous sortions d'un épais brouillard. Nous ne voyons pas distinctement les lumières. Tout est enveloppé d'un halo brumeux. Puis la brume se dissipe et les différentes lumières deviennent visibles, une à une. Le halo disparaît. Ce n'est là qu'un phénomène physique qui nous sert de comparaison. Mais c'est bien ainsi que le regard clairvoyant d'autrefois percevait l'aura de Jupiter, l'aura des entités spirituelles qui, à un certain stade de l'évolution, appartenaient à Jupiter. Puis, l'humanité accéda à la vision physique. L'aura existait toujours, mais les hommes ne pouvaient plus la voir, alors que le corps de l'astre devenait pour eux de plus en plus distinct. L'élément spirituel appartenant à ce corps disparut et le corps lui-même devint visible. Quant à la connaissance de l'élément spirituel qui entoure les astres, la connaissance des entités qui y vivent, elle fut conservée dans les mystères sacrés. C'est d'elle que parlent tous les saints rishis. À l'époque où les hommes n'avaient déjà plus que des perceptions physiques, les rishis parlaient encore de l'atmosphère spirituelle, des habitants des corps célestes qui sont répandus dans l'espace. Voyez bien la situation qui se présente alors. Dans les centres de mystère, on parlait des entités spirituelles qui entourent les astres. Mais au dehors, l'œil physique, se développant toujours davantage, on ne parlait plus guère que de l'astre physique. Lorsque les rishis prononçaient le mot Mercure, ils ne le prononçaient d'ailleurs pas, mais supposons-le pour nous faire comprendre. Donc, lorsque les saints rishis prononçaient le mot Mercure, voulaient-ils parler du globe physique? Certes non. Même les anciens Grecs, lorsqu'ils faisaient allusion à Mercure, n'entendaient pas par là cette planète matérielle, mais bien l'ensemble des êtres spirituels qui lui sont liés. C'étaient des mondes spirituels, des entités spirituelles qu'évoquaient les disciples des maîtres dans les temples de la connaissance lorsqu'ils prononçaient les noms Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. C'était une série ascendante d'entités spirituelles. De nos jours, le nom de ces globes n'en désigne plus que l'élément le plus grossier. L'essentiel en est absent. En disant lune, le sage d'autrefois faisait surgir la représentation d'un vaste monde spirituel. Et quand il désignait le point du ciel où se trouvait la lune, il y voyait l'échelon le plus bas des hiérarchies spirituelles. Mais celui qui s'est éloigné de cette conception, par suite du développement de la perception sensorielle qui allait en croissant, n'a plus eu en vue que l'astre physique. Et c'est cela qu'il a appelé lune. Un seul terme servait ainsi à deux choses qui vont évidemment ensemble, mais qui évoquent chez l'homme des représentations tout à fait différentes. Il en était de même lorsque les sages des centres d'initiation levaient les yeux vers Mercure, le Soleil ou Mars. Le courant spirituel entendait, par ces appellations, tout autre chose que le courant matériel. Ces deux courants sont allés en se séparant de plus en plus dans l'humanité. Dans les mystères, les noms qui sont devenus pour nous ceux des corps célestes désignaient toujours des mondes spirituels, des degrés successifs de mondes spirituels. Au dehors, les mêmes appellations ne désignaient plus que les globes matériels. Il en est de même pour cette mythologie. C'est à dessein que j'emploie ce mot. Cette mythologie qu'est l'astronomie actuelle, pour qui seul existe un espace contenant des globes faits de matière physique. Comme la science spirituelle reconnaît toute la valeur des autres mythologies, vous comprendrez qu'elle sache aussi apprécier celle qu'on appelle aujourd'hui l'astronomie. Mais pour celui qui sait ce qu'il en est, cette mythologie moderne n'est pas autre chose qu'une certaine phase de la mythologie en général. Une ligne droite va directement de ce que les anciens habitants de l'Europe disaient dans leurs légendes concernant les dieux, les astres, l'univers, de ce que les Grecs et les Romains racontaient dans leur mythologie, et même de la mythologie plus ou moins obscure du Moyen-Âge, jusqu'à cette mythologie moderne, très digne d'admiration, qui a été fondée par Copernic, Kepler et Galilée. Un temps viendra où l'on parlera de cette mythologie moderne à peu près de la façon suivante. Il y eut jadis des hommes qui trouvèrent bon de situer un soleil matériel au centre d'une ellipse et de faire tourner autour de lui des planètes qui se déplacent de différentes façons. Ils se sont ainsi forgés un système cosmique, comme on l'a fait aussi en d'autres temps. Mais aujourd'hui, c'est ainsi qu'on parlera dans une époque future, tout cela n'est plus que fable et légende. Oui, bien que l'époque moderne ait tant de mépris pour les anciennes mythologies et ne jure que par la sienne, le temps viendra où notre astronomie actuelle sera mise au même rang. Ou, si impossible que cela paraisse, on parlera de la mythologie copernicienne. Voilà qui peut nous faire mieux comprendre comment les mêmes mots ont servi à recouvrir des notions différentes. Malgré tout, la sagesse primordiale s'est toujours transmise sans interruption. Mais elle a été de moins en moins comprise exotériquement parce qu'elle a été interprétée, expliquée d'une manière de plus en plus matérialiste, à mesure que s'éteignait la vision de l'esprit. Aussi, pour que l'humanité ne perde pas le contact avec la sagesse des origines lors de sa rénovation au début de l'ère chrétienne, il est devenu nécessaire de rappeler que là où l'œil humain physique ne voit plus que de la matière dans l'espace, cet espace n'en est pas moins imprégné d'esprit. Et c'est ainsi que le disciple le plus intime de l'apôtre Paul, Denis l'Aréopagite, enseignait à Athènes, en termes des plus affirmatifs, qu'il n'y a pas que de la matière dans l'espace, qu'il s'y trouve des entités spirituelles qui ont précédé l'homme dans son évolution, et que l'âme le sait quand, par son sentiment, elle s'élève dans l'espace universel. Les termes dont il se servait différaient de ceux qu'employait l'antique sagesse, car s'il avait repris les mêmes expressions, on n'en aurait vu que le sens matériel. Les rishis parlaient des hiérarchies spirituelles dans le même sens que plus tard les Grecs et les Romains lorsqu'ils énuméraient la série des mondes. La Lune, Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Denis l'Aréopagite avait en vue exactement les mêmes sphères que les rishis, mais il insistait avec force sur le fait qu'il s'agissait de monde spirituel et recourait à des appellations dont il était certain qu'elles seraient prises dans un sens spirituel. Il parlait d'anges, d'archanges, d'archées, de puissance, de vertu, de domination, de trône, de chérubins et de séraphins. Puis les hommes ont de nouveau complètement oublié ce que l'humanité savait jadis. Si l'on avait compris le rapport qu'il y a entre ce qu'ont vu les rishis et ce que voyait Denis l'Aréopagite, on aurait su, en entendant parler de la lune d'une part et du monde des anges d'autre part, qu'il s'agissait de la même chose. On aurait entendu parler d'un côté de Mercure et de l'autre d'archange, en sachant que c'est la même chose. En entendant parler d'archée, on aurait su qu'il s'agissait de Vénus. On aurait compris que le mot soleil correspond au monde des puissances et que, pour l'école de Denis l'Aréopagite, Mars correspond aux vertus et Jupiter aux dominations, alors que Saturne correspond au trône. Mais tout cela, on ne le savait plus. On ne pouvait plus le savoir. Il s'est donc développé d'une part une science de la matière qui est devenue de plus en plus matérialiste et qui, pour désigner ce qui est matériel, a conservé les anciens noms, jadis chargés d'un sens spirituel. Et il y eut d'autre part une vie spirituelle pour laquelle existe l'esprit, les archanges, les anges, etc., mais qui a perdu de vue le rapport entre ces entités spirituelles et leurs manifestations physiques. Nous voyons donc comment l'antique sagesse, des origines, a pénétré dans l'école fondée par saint Paul à l'aide de Denis l'Aréopagite. Il s'agit maintenant d'imprégner de cette ancienne spiritualité ce qui se crée de neuf. Or, la mission de la science spirituelle moderne, ou anthroposophie, consiste justement à rétablir le lien entre le physique et le spirituel, entre l'univers, la terre et les hiérarchies. À ceux cependant qui ne savent pas d'où proviennent vraiment les représentations qu'on se fait du monde extérieur sensible, il est possible de reconnaître l'autre face, la face spirituelle de la connaissance. Ceci devient surtout frappant quand on aborde les écrits inspirés par la sagesse antique. Bien qu'ils n'en contiennent plus qu'un faible écho, elle seule permet de vraiment les comprendre. Prenons par exemple un passage de ce chant divin qu'est la Bhagavad Gita, chapitre 8, à partir du verset numéro 23. Où s'éclaire d'une manière profonde le rapport de la vie humaine avec les hiérarchies. Je vais t'expliquer, ô homme, à la recherche de la vérité. Par quels états passent les élus lorsqu'ils quittent la terre en franchissant la porte de la mort? Soit qu'ils doivent renaître, soit qu'ils ne le doivent pas. Je te dirai, vois le feu, le jour, le temps de la lune croissante. Vois la moitié de l'année où le soleil est haut dans le ciel. Ceux qui meurent à un moment de feu, de jour, au temps de la lune croissante, du soleil qui culmine, entrent par la porte de la mort en Brahma. Mais ceux qui meurent sous le signe de la fumée, de la nuit, à l'époque de la lune décroissante, dans la partie de l'année où le soleil est le plus bas, ceux-là, en quittant le monde par la porte de la mort, n'entrent que dans la sphère de la lune et reviennent sur la terre. Dans ce passage, il nous est dit que l'évolution d'un être humain, sa réincarnation, varie selon qu'il meurt sous le signe de la lumière, du jour, de la lune croissante, du soleil le plus haut, ou bien sous le signe de la fumée, de la nuit, de la lune décroissante, du soleil le plus bas. Tel est le sens matériel de ce texte. Il est dit de ceux qui franchissent la porte de la mort sous le signe du feu, du jour, en lune croissante, quand le soleil monte haut, qu'ils n'ont pas besoin de revenir sur la terre. Et de ceux qui meurent sous le signe de la fumée, de la nuit, de la lune décroissante, ou dans la moitié de l'année où le soleil est bas, il est dit qu'il ne leur est pas possible de monter jusqu'aux hauteurs de Brahma, mais seulement jusqu'à la lune, et qu'ils sont contraints de revenir. Ce passage du divin champ oriental cause les plus grandes difficultés à tous ceux, à presque tous ceux qui veulent l'expliquer du point de vue exotérique. Il ne peut être compris qu'à la lumière de la connaissance spirituelle d'après laquelle il a été écrit. Cette lumière qui rayonne dans les écoles occultes de tous les temps, qui se transmet et qui, rajeunie par le christianisme, nous fait découvrir le lien qui unit ces termes, la lune et les anges, Mercure et les archanges, Vénus et les archées, etc. Nous trouverons la clé de passage telle que celui que nous avons pris pour exemple si nous les éclairons au moyen de cette lumière spirituelle. Cette explication, inaccessible à la pensée exotérique, sera le point de départ de nos conférences. Puis, ayant trouvé cette clé, nous nous élèverons vers l'étude des hiérarchies spirituelles.